Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, je suis coach et créateur d'expériences pédagogiques pour les entrepreneurs indépendants et chaque semaine, je t'accompagne ici, dans ton aventure de freelance, en te partageant les récits de ceux qui s'engagent dans cette même voie. Créer une activité professionnelle qui soit réellement au service de la vie qu'ils veulent vivre. Cette semaine, j'ai eu le grand plaisir d'accueillir Alex Tourgis sur le podcast. Et Alex a un profil particulier en tant que freelance, puisque son offre de création de site internet intègre des propositions sur 4 piliers. La stratégie, le branding, le design et le développement. Cette méthodologie très complète, c'est l'équivalent de quasiment 4 métiers différents en une seule offre qu'il délivre lui seul, du début à la fin. Et à première vue, on pourrait du coup se dire « Oh là là, mais comment il fait? C'est pas possible, il peut pas être pertinent sur 4 métiers en même temps. Il doit y avoir anguille sous roche, etc. etc. » Eh bien, figure-toi que dans les derniers mois, les réalisations d'Alex ont été récompensés par plusieurs prix du web design, comme notamment ceux du site Awards avec 3W, que tu connais peut-être, qui est presque, je dirais, le graal des web designers. Bref, ce sont de belles preuves de son expertise. Mais du coup, comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il fait pour vendre l'équivalent de 4 métiers alors qu'il est seul? C'est quoi son cheminement? Comment est-ce qu'il en est arrivé à ce stade-là? Qu'est-ce qu'il fait de particulier pour se démarquer face à des agences avec parfois des dizaines d'employés qui sont face à lui sur les appels d'offres? Dans cet épisode, on répond à toutes ces questions et je suis vraiment ravi de te le partager et on parle aussi de plein d'autres choses, notamment de création de contenu, d'éducation client et ainsi de suite. C'est un épisode vraiment important, je pense, pour nous tous. Bref, tous les deux, on se retrouve à la fin pour le débrief et je te souhaite une très belle écoute de cet épisode 53. À tout à l'heure. Bienvenue sur Young Wild and Freelance, Alex.
Salut Thomas.
Trop content de faire cette discussion après, comme on se disait juste avant de commencer à enregistrer, des croisements par-ci par-là, des discussions par-ci par-là. Et enfin, on est, j'allais dire en réel, pas vraiment en réel, mais on peut discuter pour de vrai.
Ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on se parle, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter, et même depuis peu, vu que j'ai rejoint ta communauté. Et là, yes, c'est vrai que c'est cool d'enfin se voir en vrai. Enfin, ouais, virtuellement, mais bon. Maintenant, c'est un peu la norme, je pense.
En vrai, virtuellement. Grave, ouais. C'est le nouveau vrai.
C'est
trop
ça.
Bien. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on se lance directement avec la fameuse question rituelle que tu connais forcément par cœur, qui est celle-ci. Alex, comment, mais surtout pourquoi, est-ce que tu es devenu indépendant ?
Eh bien, écoute, j'ai commencé pour une assez belle raison, parce qu'en fait, je me suis mis en freelance par amour. Parce qu'en fait, je suis parti en voyage, enfin pour résumer un peu, je suis parti en voyage en 2015 aux Philippines, tout seul, en mode backpack, et j'ai rencontré ma copine là-bas qui est espagnole, mais du coup, on s'est rencontré aux Philippines, qui a voyagé aussi en backpack. Et donc, du coup, enfin, on est revenu chacun dans son pays et on a continué à se voir. On était en distance, relation en distance. Et il y a un moment, moi je bossais dans une boîte sur Paris. Je m'amusais bien, mais j'avais quelques contrats en freelance à côté pour gagner un petit peu plus d'argent. Et en fait, c'est là où je me suis dit, si je me mets à fond dedans, je pense que je peux en vivre. Et du coup, je peux aller rejoindre ma copine à Barcelone. Du coup, j'ai posé ma démission, enfin, rupture à l'amiable. Et du coup, ça y est, je me suis mis à temps plein en freelance et j'ai bougé dans la foulée à Barcelone.
Yes. Et du coup, t'es à Barcelone là encore ou?
Non. Depuis, on a bien voyagé, notamment en Australie et en Asie. Et là, on s'est posé depuis septembre, on s'est posé à Seignos, dans les Landes. Très posé. Okay. Ça fait vraiment du bien parce qu'avant, on était sur Paris. Et là, j'avoue que c'est le pied, la nature, la mer,
ouais.
La vie de freelance, tranquille, bosser chez soi, prendre soin de la famille. C'est le paradis.
C'est trop cool. Je pense que je vis un peu la même chose depuis que moi, je suis revenu en Dordogne. Et là, c'est en septembre 2020 que j'ai officiellement revenu ici en Dordogne à la campagne où j'ai grandi. Et c'est clair que ça change tout, quoi. Ça n'a rien à voir.
En fait, ouais. Tu bosses à la maison, mais en fait, tu peux couper beaucoup plus facilement. Et le fait d'être aussi en contact avec la nature, enfin, tu peux aller te balader en forêt, tu peux aller à la mer, enfin, tu peux. En fait, moi, je me sens beaucoup mieux qu'à Paris où je me sentais vraiment enfermé. Et là, ouais, c'est. Ouais. Je revis depuis septembre.
Ouais, moi, ce que je vivais un peu à Paris, c'est. Le fait que tu te fais emporter, en fait, dans le sens où il y a un flot constant d'opportunités, de gens stylés à rencontrer, d'événements, une effervescence qui est incroyable à vivre, certes, mais au bout d'un moment, moi, c'était devenu trop et je trouvais que ça me défocus. Genre, j'arrivais pas à me concentrer vraiment sur ce sur quoi je voulais vraiment me concentrer.
Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que quand tu es sur Paris, par exemple, si tu es un client de contact, vu qu'ici, c'est que t'es sur Paris, il va plus vouloir faire un rendez-vous, par exemple, dans les bureaux. Enfin, maintenant, avec le Covid, c'est le seul point positif, je pense, c'est que du coup, les gens sont beaucoup plus à l'aise avec le remote. Mais ouais, avant, c'était, viens au bureau, du coup, tu perds le temps que t'ailles là-bas, le temps que tu reviennes. Enfin, tu perds une demi-journée ou après, ouais, t'as beaucoup plus d'opportunités. Donc, ouais. Tu te coupes, tes journées sont découpées, et donc du coup, t'es beaucoup moins efficace. Que là, du coup, je trouve que là, tu peux te concentrer à avoir des plages horaires avec moins de distractions, mais du coup, tu vas être libre plus vite, et donc du coup, tu vas pouvoir faire des choses que tu kiffes à côté. Et ça, c'est cool.
Et du coup, j'ai une première question qui me permet d'aller un petit peu vers ce sur quoi je voulais t'interroger. C'est. Est-ce que depuis, du coup, que tu t'es posé là plus en mode campagne dans les Landes, est-ce que tu sens que ça te permet de mieux concentrer ton énergie, tes pensées, tes réflexions et ton temps de travail sur les trucs sur lesquels tu as vraiment envie de te concentrer? Et du coup, quelles sont ces choses sur lesquelles tu as vraiment envie de te concentrer?
Bah déjà, en fait, c'est un truc tout con, mais le fait d'avoir un bureau, parce que du coup, à Paris, on était avec ma copine et ma fille dans un 34 mètres carrés. Donc, je te raconte pas comment c'était l'enfer. Et là, le fait d'avoir un bureau, un espace dédié au travail, ou un espace après lequel tu peux couper quand tu as fini, ça fait la différence. Et du coup, tu es beaucoup plus efficace même dans ta journée de travail. Et ouais, là, en fait, ça m'a permis aussi d'avoir un, parce que du coup, j'ai la chaîne YouTube. Et en fait, ça m'a permis aussi d'avoir un studio dans lequel je vais enregistrer. Enfin, là, je suis en train de le peaufiner, mais dans lequel je vais enregistrer. Et donc, du coup, je peux y aller quand je veux. Je peux enregistrer des vidéos. Et du coup, ça accompagne aussi le fait qu'en 2021, tu vois, je veux faire plus de vidéos, plus de contenu, plus de face cam pour expliquer un peu des choses sur la vie de freelance, sur les galères aussi. Pas expliquer non plus que des trucs sur Webflow, des trucs techniques, mais des trucs un peu plus perso. Je pense que ça peut être intéressant. Et là, le fait d'avoir un espace dédié pour ça, c'est trop bien.
Ouais, c'est clair que ça facilite énormément la vie. Moi aussi, ça fait un peu partie de la vision de ce que j'aimerais avoir. C'est un lieu dédié à créer du contenu où t'y vas, tu te poses, tout est déjà installé et t'as pas besoin de à chaque fois réinventer ton espace
C'est
pour
ça,
faire le
c'est
contenu qu'on a
ça.
envie de faire.
C'est ça, ouais, parce que sinon, le temps que tu installes ta cam, le temps que tu mettes les lumières, le temps que tu règles tous tes trucs, t'as déjà perdu 1 heure, enfin, t'as perdu un peu la motive, du coup, après, tu vas te faire un café, tu recommences, tu peux vite te perdre. Non, j'avoue que c'est plutôt chouette.
Ouais, c'est clair. Mais ça tombe bien qu'on vienne sur ce sujet parce que c'est quelque chose que je voulais creuser avec toi par rapport à YouTube.
Ouais.
Ce que tu as fait pour l'instant sur YouTube, d'ailleurs, je trouve ta page, elle est hyper bien organisée et ça montre la diversité de différentes choses avec à la fois des tips
Merci.
et astuces et des vidéos assez, disons, terre à terre sur des sujets précis sur Webflow, qui est du
Ouais.
coup, ta spécialité, mais aussi. J'ai vraiment adoré ta série où tu suis la construction d'un site client de A à Z. Et je trouve que ça, c'était un super format pour montrer toute ta méthodologie de travail, toute ta valeur ajoutée. Et du coup, je suis curieux de comment et pourquoi tu as pensé cette série? Quel rôle tu donnes à cette série de vidéos-là dans ton activité?
Ben en fait, déjà, la chaîne, je l'ai créée après avoir fait une grosse introspection. En fait, j'étais à un moment, c'était il y a 1 an et demi, je crois, ouais, 1 an et demi, où en fait, j'étais à un moment où je trouvais pas vraiment de clients, où les clients que je trouvais ne collaient pas vraiment à ce que je souhaitais. Et en fait, j'ai lu pas mal de choses, j'ai écouté pas mal de podcasts, etc. Et en fait, j'ai réalisé que c'est normal que je trouvais personne parce que personne ne me connaissait, en fait. Et donc, du coup, il fallait juste que je prenne la parole quelque part. Et donc, je me suis dit, ça faisait un moment que je suivais des chaînes YouTube et que je me suis toujours dit, ah, j'aimerais bien faire une chaîne YouTube. Et tu sais, t'as toujours la pression de dire, ouais, qu'est-ce que les autres vont penser de ça, tu vois. Mais les gens vont se marrer, ils vont penser que je me prends pour Squeezie ou, tu vois. Et donc du coup, ouais, j'ai mis, je sais pas, 1 an avant de me lancer. Et puis un jour, je me suis dit, bah, fuck it, je le fais, je m'en fous de ce que les autres pensent, quoi. Et donc du coup, j'ai lancé la chaîne YouTube. Et donc moi, vu que je m'étais spécialisé dans Webflow, j'ai dit, bah, le meilleur moyen de montrer ce que je sais faire, c'est d'abord de faire des petites vidéos tips sur Webflow. Comme ça, c'est des petites vidéos sans prétention, c'est des vidéos des courts formats. Et en fait, j'ai vu que les gens commençaient à bien kiffer. Donc, j'en ai fait de plus en plus. Et à un moment, je me suis dit, ouais, ça serait vraiment chouette. Et j'ai jamais vu ça sur les chaînes françaises, de montrer d'un dev qui montre vraiment toutes les étapes de A à Z de la création d'un site. Mais que ça se, enfin, et c'est pour ça là, que du coup, j'ai fait la chaîne. Donc, que j'ai fait les épisodes. Et donc, du coup, j'ai une série de, je crois que j'ai quasiment, ouais, 1000 minutes de rush. Donc,
Ouais,
ça
c'est
va
fou.
prendre beaucoup de temps. Je crois que j'ai encore pour 2 mois de diffusion. Mais en fait, après ça, si tu regardes toute la vidéo, si tu commences sur Webflow, bah, tu peux avoir déjà de bonnes bases et créer ton site par toi-même. Et le
Ouais.
truc cool de la chaîne aussi, c'est que, bah, je pense, toi, tu le dois l'avoir aussi sur le podcast, c'est que ça te permet de te connecter avec plein de personnes en fait qui sinon ne seraient jamais venues vers toi parce que bah du coup ils te connaissent pas. Et les retours de la communauté, tu as des gens qui viennent spontanément te dire hey, c'est trop bien ce que tu fais, continue. Et tu dis ah, trop bien, merci. bah ouais, je vais en faire plus.
Ouais, grave.
Tu vois, c'est la contrepartie de donner quelque chose de gratuit. C'est que du coup, bah déjà, ça permet de rencontrer pas mal de personnes. Mais aussi, ouais, ça, il y avait aussi un but, pas marketing, mais de montrer aussi aux gens ce que je sais faire. Et c'est vrai que la chaîne aussi m'a apporté pas mal de clients parce que du coup, les gens voient en direct ce que je sais faire. Donc, c'est mieux que faire un appel d'offres, en fait. C'est, bah, regarde la vidéo et tu vois ce que je sais faire, quoi.
Ouais, c'est clair. Bah, je trouve que dans ce que tu dis là, ça a hyper bien illustré le rôle que ça peut jouer, à mon sens, de faire du contenu comme celui que tu as fait, où tu montres toute ta méthode de travail du début à la fin. C'est qu'il y a une partie pédagogique qui aide d'autres
C'est ça.
personnes qui veulent faire la même chose et qui peuvent structurer. Je pense à ta vidéo d'ailleurs, on en reparlera la première, où tu montres vraiment genre toute ta méthodo et toutes les étapes dans ton Notion. Et
Ouais.
du coup, tu as ce rôle pédagogique qui est trop cool, mais aussi côté client, quelqu'un qui voit ça du début à la fin, bah, ça donne beaucoup de clarté sur OK, je sais que si je travaille avec Alex, c'est à ça que j'ai accès. Et du coup, ça montre en gros, voilà, je sais comment ça va se passer, je sais qu'on va faire comme ça, puis comme ça. Et ça, je trouve que c'est une vraie bonne valeur ajoutée pour créer du lien avec tes clients et leur montrer la direction.
Ben c'est ça, parce qu'il y a un gros thème que je pense beaucoup de freelances n'abordent pas, c'est l'éducation client. En fait, je trouve qu'il y a une grosse partie éducation avant de commencer un projet pour ne pas avoir toutes les frictions que tout le monde connaît pendant un projet du client final qui. Parce que souvent, en freelance, tu as la phrase typique de oh, le client comprend pas ce que je veux faire, enfin, il me respecte pas, etc. En fait, c'est juste en fait, vous étiez pas fait pour bosser l'un avec l'autre. C'est si tu montres au début, tu vois, même avant de signer le contrat, c'est je te montre en vidéo, enfin, moi, maintenant, j'essaie de faire ça, c'est je te montre en vidéo comment je travaille. Je vais te montrer toutes les étapes du process, tu vas voir, ça va être super transparent. Comme ça, tu n'auras pas à me poser tout un tas de questions, on n'aura pas à faire enfin, plein de calls inutiles. Et en fait, comment dire, ça te met dans une position d'expert, même si le mot, je sais que tu avais eu la conversation avec Valentin, c'est un peu abusé des fois ce mot-là. Mais en fait, ça te met en position d'expert, de OK, cette personne-là sait ce qu'il va faire et je peux lui faire confiance et pas être tout le temps sur son dos à lui demander qu'est-ce qu'il fait, où on en est, ça va être quoi les prochaines étapes. Et ouais, donc il y a un gros
Grave.
travail d'éducation client, je pense, qui est encore à
Ouais, je
faire.
trouve ça hyper intéressant et je te rejoins sur ça, ça me met beaucoup en confiance en fait. Pour
C'est
moi,
ça.
c'est un truc que j'avais dit il y a un moment d'ailleurs que j'ai pas parlé de ce sujet, je trouve, c'est de dire en gros, quand tu es freelance, ce que tu dois montrer à ton client, c'est je reviens du futur et je te dis exactement tout ce qui va se passer et je t'emmène
J'aime beaucoup
jusque-là.
cette
Et
phrase.
c'est un peu ce que tu fais et quand je voyais dans la manière hyper précise, je reparle de ce truc-là dans ta vidéo d'intro, on voit t'as ton espace sur Notion avec toutes les étapes et tu coches à chaque fois. Genre moi j'étais impressionné par la précision de OK, on va faire ça, puis on va faire telle page, puis on va faire tel machin. Et je me dis si tu montres ça à ton client, lui ça y est, il est assis dans son fauteuil en velours et il est en train de dire bon ben voilà, je sais où c'en est, je sais que Alex il en est exactement là en ce moment. Et du
C'est
coup, je me
ça.
demande, c'est un truc que tu partages avec tes clients, genre tout ce détail jusque dans la moindre page que tu mets en ligne et tout?
C'est même ce qui m'aide à conclure de certains contrats, en fait. Par exemple, là, j'ai bossé pour un client, je peux le dire, enfin, c'est la Fondation Suisse des Déminages. C'est une ONG qui fait du déminage partout dans le monde. Et enfin, sujet, enfin, appel d'offres super cool, mais en fait, ils étaient habitués à bosser avec des agences, etc. Et le fait que moi, je sois tout seul et que je prenne en charge le branding, le design et le développement, au début, ils n'étaient pas trop à l'aise. Et en fait, quand je suis arrivé, je leur ai fait une vidéo tuto en leur disant, OK, ça va se passer comme ça. Là, je vous partage ce Notion où vous allez voir toutes les étapes et tu vas voir tout de A à Z. Et ben, en fait, les mecs se sont dit, bah ouais, en fait, il sait ce qu'il sait faire. Donc, enfin, il connaît son job. Donc, on peut lui faire confiance. Et à chaque fois que je montre cette to-do, Enfin, ça fait une, ça fait un, j'aime pas trop ce mot-là, mais tu vois, un effet waouh. C'est genre, à chaque fois, les clients disent,
Ouais.
ah, ok, ok.
C'est bon.
C'est même un peu,
I
c'est même un
trust
peu
you.
un, ouais, tu peux même passer des fois pour un fric parce que du coup, t'as toute cette liste, genre,
Mais c'est
mais
hyper
ouais.
intéressant, hein, parce que justement, vas-y, pardon, je te laisse finir.
Non, non, je disais, et je disais en fait, ça c'est pendant le process, mais là je vais essayer d'encore plus pousser le truc, c'est avant même. En fait, c'est genre, tu bookes un call avec moi, je t'envoie direct une vidéo de comment je travaille, c'est quoi les étapes, même tu vois le prix. En fait, comme ça permet aussi de filtrer. Parce que là, il y a un truc que en ce moment, je galère, enfin, c'est pas que je galère, mais en ce moment, en fait, j'ai des calls tous les jours, genre des nouveaux clients, etc. Et en fait, toutes mes après-midi sont bouffées de 2 heures parce que j'ai des calls avec des gens. Et souvent, c'est des calls. Enfin, si tu le fait de pas filtrer, c'est genre tu t'as ouais, t'as 30%. C'est pour des bons projets. Donc du coup, en fait, tu perds 70% du temps avec des gens au final qui te correspondent pas. Donc en fait, je pense que si tu fais une éducation même avant de signer un contrat, eh ben déjà ça te fait gagner du temps et ouais, ça te fait gagner du temps tout simplement.
Mais ouais, c'est hyper intéressant. Il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir là. Je vais prendre la deuxième avant de revenir sur la première. C'est quand tu arrives à ce stade de les gens m'ont identifié pour mon expertise, savent que je fais du bon travail et que du coup, comme tu dis, genre, tu as presque des calls tous les jours avec des demandes. Clairement, c'est un peu la loi de Pareto. Là, tu as dit 70-30, mais on pourrait dire du 80-20 aussi.
Ouais,
T'en
je
as
pense, ouais.
plein qui vont venir juste pas. Ils s'intéressent, ils veulent grappiller des trucs, mais ils veulent pas vraiment travailler. Et là, du coup, l'enjeu, comme tu dis, c'est de filtrer en amont. Et c'est hyper intéressant, la réflexion, de se dire, en fait, je vais lui donner tout ce qu'il a à savoir.
Ouais.
Et comme ça, on a la vraie discussion derrière de, OK, est-ce qu'on y va ou pas? Parce qu'il a déjà toutes les infos. Et toi, t'es pas
C'est
dans une
ça.
position où tu as besoin de convaincre et te battre et montrer, oui, mais regardez, travaillez avec moi, s'il vous plaît, etc., quoi.
Bah, je pense que ouais, si tu commences à montrer, oui, oui, venez bosser avec moi, ouais, enfin, je suis un peu perdu dans mes pensées. C'est ouais, si tu commences à essayer de convaincre trop le client, en fait, ça te met vraiment en position d'infériorité et ça fait vraiment la personne qui a besoin de ce contrat-là. Et du coup, en fait, je pense que ça biaise la relation avec le client parce qu'il sait que peut-être si t'as pas ce contrat-là, t'es pas très bien. Donc du coup, peut-être qu'il va jouer sur le prix, etc. Donc en termes de relation pour commencer, c'est pas terrible. Je pense que ouais, faut être sûr de et fier de ce qu'on sait faire et d'être sûr de ses valeurs et de ses qualités. Et ça évite ouais de faire de la négociation au rabais. Moi, j'essaie d'éviter la négociation. C'est, tu vois, c'est tel prix, c'est tel prix. Ouais, j'ai un peu du mal avec ces négociations.
Ouais, mais comme tu dis, ça demande un bon ancrage de voilà ce que je fais, voilà, genre de montrer je suis hyper aligné avec le fait de savoir exactement bien faire ça et je délivre ça. Et je trouve que du coup, je suis curieux de savoir comment t'arrives toi à avoir cette assise, parce que comme tu le disais, c'est sur ton site, on le voit. T'apportes les quatre phases. Stratégie, puis branding, puis design, puis développement du site, qui sont presque quatre métiers différents, où on pourrait avoir quatre freelances différents en équipe qui bossent dessus. Et du coup, je suis curieux de comment t'es arrivé au stade de te dire, je suis capable de délivrer sur ces quatre piliers et de faire le truc du début à la fin. Enfin, voilà, je veux que tu nous racontes un peu tout ça.
Ouais. Bah écoute, il n'y a pas de secret, c'est en travaillant pendant des années sur chaque sujet. En fait, à la base, moi, j'étais graphiste, donc plus côté branding. Après, je me suis, enfin, pendant des années. Après, je suis passé plus vers le web parce qu'il y avait beaucoup plus de demandes, donc j'ai commencé à apprendre à faire des sites, etc. Enfin, à designer des sites. Et sauf qu'en fait, je bossais pour des agences où je bossais en free. Mais sauf que je suis arrivé à un moment où, en fait, à chaque fois, je designais quelque chose, soit le développeur avec qui je bossais n'était pas dispo parce que les développeurs sont très demandés, etc. Ou soit par exemple l'agence ne respecte pas du tout ton design ou les animations, par exemple, que tu veux faire sur le site. Et donc, du coup, je suis arrivé à un moment de frustration. Je me suis dit, en fait, je vais le faire par moi-même. Je veux développer les sites par moi-même. Donc, j'avais déjà la qualité de branding, le design, et il manquait le développement. Et en fait, là, je suivais Ran Segal sur YouTube, qui est un freelancer israélien qui fait des vidéos sur le freelance. Et il parlait beaucoup de Webflow, ce qui est un outil, du coup, pour no-code, pour faire des sites. Et en fait, je me suis dit, c'est la solution idéale pour moi, en fait. Je connais pas une ligne de code, mais j'ai envie de développer. Donc, je me suis mis à Webflow. Et j'ai saigné Webflow pendant une année. Et du coup, maintenant, je peux faire des sites par moi-même. Donc, du coup, ce qui est chouette, c'est que ça me donne la multi-compétence de branding, design et développement. Et après, stratégie, c'est tu le travailles un peu sur le tas avec l'expérience au final, parce que c'est à force de rencontrer les clients, tu commences à comprendre les problématiques, les questions que tu dois poser sur leurs objectifs, sur leurs cibles, quelle est leur ambition à court terme, à moyen terme, enfin les problèmes qu'ils ont actuellement sur leur site. Et donc, du coup... Parce que ouais, ça fait quasiment 10 ans, ouais, 10 ans que je suis dans le design en gros. Et donc ouais, maintenant ça me donne toute une palette qui du coup est cool à packager, parce que quand tu vas avoir un client et tu lui dis je peux tout faire de A à Z et on va bosser en relation directe, tu vois, tu passes pas par une agence, il y a pas de manager, il y a pas toute une équipe où les délais vont se rallonger. En fait, c'est pareil, ça, c'est un argument de vente, en fait. C'est, si on bosse ensemble, ça va, enfin, déjà, en termes de relations humaines, ça va être beaucoup plus agréable, parce que le fait d'être en one-to-one,
en individuel.
En individuel, enfin, en relation client directe, c'est beaucoup plus agréable pour les deux parties.
Grave. Et du coup, genre, il y a pas. Est-ce que aujourd'hui, je sens que t'es bien installé et tout sur ça, et tu te poses plus de questions de ta légitimité. Mais au début, quand t'as commencé à rajouter ces briques à chaque fois, est-ce qu'il y a des moments où justement c'était un peu fébrile, où tu savais pas trop comment faire et t'avais envie d'y aller, tu savais pas comment le faire et ainsi de suite. Comment ça s'est passé, tu vois, les étapes à chaque fois?
J'ai galéré pendant des années. Hein. le truc, c'est que quand j'étais plus designer, moins développeur, enfin quand j'avais pas encore la brique développeur, en fait je savais pas à qui parler et je savais pas qui pouvait être mes clients. Donc en fait, j'ai dû faire une grosse phase d'introspection et de savoir ok, de quoi mes clients ont besoin. Et donc du coup, en fait, je me suis aperçu que beaucoup avaient besoin directement d'un designer développeur. Et donc du coup, c'est pour ça aussi que j'ai développé cette capacité-là. Mais ouais, j'ai mis des années avant de comprendre qu'il fallait que je développe mes sites. Ou même j'ai mis des années à comprendre qu'il fallait qu'on me connaisse, en fait. Parce que ouais, au début, je me disais, je travaille bien, je pense que je fais pas mal, mais je comprends pas pourquoi j'arrive pas à avoir de clients. Et du coup, ça, c'est un truc, c'est pas, tu te dis pas ça du jour au lendemain, ça fait un an que je galère, j'ai pas de clients, je comprends pas.
Pourquoi,
là, du coup, ouais, voilà, et du coup, tu fais une grosse période d'introspection. Et je crois que ma vie de pro est ponctuée de périodes d'introspection. Je pense que ça sera toute la vie. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. C'est genre, ça peut être introspection technique. Ok, il me manque une techno que je dois apprendre. Peut-être, est-ce que je dois l'apprendre, etc. Mais aussi, ouais, introspection mentale. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi il y a des blocages? Pourquoi les personnes ne me connaissent pas? Pourquoi? Enfin, il y a tout un tas de questions à se poser, et je pense que c'est important. C'est important de faire le point. Et je pense que c'est important aussi de trouver le temps maintenant, si on a un emploi du temps chargé, de s'allouer du temps à se poser ces questions-là. C'est en fait, t'es dans le rush, tu dis, ok, là j'enchaîne les clients, c'est cool, je gagne de l'argent. Et à un moment, tu dis, et en fait, j'ai pas du tout pensé à l'avenir. En fait, j'ai pas du tout anticipé. j'ai pas du tout pensé à une stratégie dans le futur, etc. Donc, je pense que c'est important de s'allouer des temps à la pensée.
Ouais. Et c'est pour ça que je trouve que c'est cool aussi que maintenant tu aies ces deux vitesses avec la chaîne YouTube aussi, parce que ça te permet aussi d'avoir un truc que tu construis dans le temps avec pas juste l'objectif de re-rentrer des nouveaux clients, mais
C'est
aussi de
ça.
développer, ok, comment je peux améliorer ma pédagogie, le fait de montrer ce que je fais et développer cet aspect-là, quoi. Et je trouve que ça accompagne cette réflexion.
Ben ouais, la chaîne, en fait, c'est un. Ben, moi, je le vois un peu comme un défouloir. C'est genre, c'est là où je vais m'amuser, c'est là où je rencontre des gens, c'est là où je peux tester des choses. Et c'est ma chaîne, en fait, donc je fais ce que je veux. C'est pas. Là, j'ai pas de compte à rendre aux clients, même à personne, en fait, parce que tu proposes du contenu gratuit. Donc, si t'aimes bien, c'est cool. Si t'aimes pas, tu vas voir quelqu'un d'autre. Donc, en fait, je pense que ouais, enfin, peut-être, tu vois, ton podcast, tu le vois un peu de la même manière, mais c'est un terrain de jeu. C'est genre, si j'ai envie de faire des vidéos de cuisine, je ferai pas des vidéos de cuisine, mais je le ferai parce que je fais ce que je veux sur ma chaîne, tu
Ah, grave. Mais tu pourrais cuisiner et en même temps montrer des trucs
vois.
sur Webflow et commenter des sites, tu vois. On sait pas.
Ouais, c'est ça.
Peut-être qu'un jour tu feras ça. Et pour revenir du coup sur ce truc de ces quatre grands piliers que tu as aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure d'un client qui au début, quand tu lui as dit bah, je fais tout, je vous prends de la strat, je fais le branding, le
Ouais.
design et ensuite à la fin le développement du site. Comment tu fais justement à part cette to-do dont on a parlé tout à l'heure? Est-ce que tu as des outils particuliers ou des choses particulières que tu montres à tes clients pour montrer, ben, si, regardez, je peux vraiment faire du début à la fin, on n'est pas obligé de passer par une agence, on n'est pas obligé d'être quatre pour faire du bon travail là-dessus. C'est quoi un peu si tu as une méthodologie de particulière pour la phase de vente?
Ouais, bah déjà, ouais, montrer cette to-do là. Après, je fais toujours une vidéo. Je fais toujours une vidéo pour me présenter, enfin, en fait, je trouve que le fait de faire une vidéo, parce qu'en fait, on est freelance, tu vois, on n'est pas une agence. Donc, en fait, quand quelqu'un bosse avec toi, il bosse avec la personne aussi. Il te prend toi parce que t'es sympa ou enfin, tu dégages quelque chose qu'il aime bien. Et en fait, je trouve que le fait de faire une vidéo, ça brise un peu la glace, tu vois, de l'email, le froid, ou bonjour, je suis telle agence, j'ai besoin de travailler avec vous, etc. Là, tu fais une vidéo, tu te présentes, et les gens voient tes défauts, comment tu parles, enfin, ou voient un peu ton mood, tu vois, ça se sent en vidéo. Donc, moi, je fais une vidéo, j'explique comment je travaille, etc. Donc, ouais, j'ai une assise, ouais, technique où je montre les bases, enfin, avec la to-do, comment je travaille. Il y a une partie un peu émotionnelle ou avec la vidéo. Comme ça permet aussi au client de me cerner. Et après, il y a aussi une partie projet. Je montre mes projets. Parce que, en fait, moi, avec mes projets, j'essaye de filtrer aussi les gens par projet. Je ne bosserai pas pour n'importe qui. Parce que j'ai envie de bosser avec des personnes, des marques ou des projets qui soit dans mon état d'esprit. Enfin, par exemple, je suis végétarien, j'irai jamais bosser avec une marque de viande, tu vois. En fait, j'essaye de aussi, parce que du coup, c'est moi, je me vendrai pas juste pour le travail ou pour l'argent. C'est pour ça, enfin, c'est le truc cool du freelancing aussi, c'est que c'est toi, ton activité, ta personnalité. Et c'est aussi pour ça que la chaîne YouTube est
Grave.
cool et que du coup ton podcast aussi est chouette parce que je trouve que tu vois quand on écoute ton podcast on te connaît tu vois je te connaissais pas avant mais
Mais
je
tu me connais quand
vois
même quelque part, quoi.
ouais voilà c'est comme si je te connaissais c'est comme si tu vois quelqu'un à la télé t'as l'impression de le connaître
Ouais, mais du coup, c'est intéressant que tu dises ça parce que il y avait une de mes questions par rapport à ça. C'est que ta chaîne YouTube, elle est brandée sur ton nom, ta personne, comme tu dis, l'être humain que tu es, Alex Tourgis. C'est Tourgis d'ailleurs
C'est
ou
ça.
Tourgis? Tourgis.
Tourgis. Ouais.
Tourgis. Du coup, c'est comme ça, mais le nom de ta boîte, entre guillemets, c'est Tanbien Studio. Et du coup, je suis curieux de pourquoi ta chaîne YouTube, c'est ton nom, et pourquoi le nom de ta boîte, c'est comme un studio et pas pareil ton
Ouais.
nom.
Ça, c'est une problématique sur laquelle je suis en train de penser en ce moment. C'est je sais pas si je dois pivoter la chaîne sur le nom du studio, mais d'un côté, non, parce que si j'ai envie de poster une vidéo de voyage, qui du coup est liée, peut être liée au digital nomade, etc., je le vois mal poster sur le nom de Tanbien, tu vois. Et en fait, le fait d'avoir le studio, ça me permet aussi de me dissocier. Et que si un jour je veux intégrer des nouvelles personnes, ce que je suis en train d'essayer de faire, eh ben je peux les intégrer à temps bien. Mais le fait que je communique aussi par ma personne, ça va ramener du monde sur temps bien. Et en fait, je pense que tu peux jouer sur les deux tableaux. Mais enfin, c'est un questionnement que j'ai en cours. Donc peut-être que je me trompe. Je sais pas du tout.
Je sais pas si toi, moi, ce que je me disais en voyant. Quand je le voyais comme ça, je me suis dit, soit il utilise ça pour légitimer le fait de bosser sur les quatre piliers, et du coup de dire on est un studio, et du coup on travaille sur ces quatre piliers-là, etc. Soit c'était effectivement, comme tu le disais, pour faire monter une équipe à bord un jour et potentiellement avoir un développement avec d'autres personnes qui rejoignent l'équipe et qui bossent avec toi, quoi.
C'est ça, parce que là, l'une des grosses problématiques en ce moment, je crois que c'est la grosse problématique de ma vie, mais bon, de la vie de tous les freelances aussi, c'est le temps. Surtout depuis que je suis papa, j'ai plus du tout de temps. Et donc, du coup, en fait, cette année, j'ai bossé comme un taré. Et ce qui est, en fait, c'est chouette parce que du coup, je marche un peu en sprint et en marche, tu vois, c'est genre, il y a des moments où je sprint comme un taré. Là, c'est par exemple cette année, j'ai sprinté, j'ai fait pas mal de projets, j'ai produit. Du coup, ça m'a permis d'avoir un portfolio plutôt chouette. Et du coup, maintenant, ça me fait une assise sur laquelle me poser et du coup prendre plus le temps de choisir ses clients. Et donc, ouais, le fait d'avoir sprinté, je pense comme beaucoup de freelance, je me suis un peu cramé. Et donc là, faut que je me pose. Et donc là, j'ai réfléchi à une nouvelle manière aussi de prendre plus de temps. Parce que je pense que j'étais à 80% de travail. Et après, du coup, il me restait 20% pour le démarchage, faire la compta, faire la vie des chaînes YouTube, faire tout ce qui est à côté. Et donc, du coup, c'est pas jouable. Donc là, cette année, je vais essayer un peu de bosser un peu moins sur la partie peut-être technique, d'essayer de déléguer un peu plus, chose que j'ai un peu de mal pour l'instant. Et du coup, ouais, de pouvoir me baser, de me focaliser un peu sur la stratégie au futur. Ce qui, du coup, m'amène sur un nouveau truc. Ça, je te l'expliquerai. Je peux l'expliquer maintenant, si tu veux. pour 2021. En fait, pour 2021, c'est un truc sur lequel, pareil, je suis en train de penser. C'est en cours de réflexion, donc je sais pas trop où ça va amener, mais on va tester. C'est en fait en 2020, là où j'ai galéré, c'est en termes de temps et en termes de temps, parce que du coup je prenais beaucoup de clients, parce que des fois j'avais des clients qui avaient pas trop de budget, donc du coup je prenais un autre client pour être bien financièrement. Je pense que tout le monde a été dans ce cas-là. Ouais. Et là, du coup, maintenant que ça commence à bien marcher, j'aimerais passer un palier, en fait. Et du coup, être beaucoup plus sélectif. J'aimerais un peu lancer un système de, parce que du coup, vu que j'essaie de faire des expériences digitales uniques pour mes clients, tu vois, un peu comme le but, ce serait un peu de faire un peu de la haute couture, mais digitale, tu vois. Et que chaque mois soit une collection. C'est genre, je prends un mois, je prends que un client. Par contre, c'est le prix dont j'ai besoin en un mois pour vivre. Enfin, je sais pas, j'ai besoin de 7000 euros pour vivre en un mois. Eh ben, c'est le prix de base pour bosser avec moi. Et en fait, c'est un mois, un client. Et ça veut dire que je suis un mois dédié sur le client, même si ça dure moins longtemps ou pas. Mais au moins, ça permet de poser les choses. Ça veut dire que je ne prends pas d'autres clients. Donc, si j'ai fini, je passe du temps pour la stratégie, pour développer des choses sur la chaîne. Et donc, du coup, et aussi passer beaucoup de temps en famille, qui est important. Et donc, je vais essayer de faire ça. Ouais, un mois, un client, une collection, et c'est tout.
Et ce qui, du coup, demande, comme tu disais, effectivement, de faire levier sur tout ce que tu as déjà fait cette année pour montrer que effectivement travailler avec moi Alex, un projet c'est 10 000 euros et voilà quoi, et c'est à prendre ou à laisser, et j'en prends que un par mois. Et ce côté rareté, je le trouve intéressant justement, si tu arrives à avoir les bons arguments de légitimité, et j'ai l'impression que c'est construis au fur et à mesure.
Mais c'est dur aussi,
je pense que ça va être intéressant.
C'est dur aussi, je sais pas ce que t'en penses, mais le fait de de se dire que je vais peut-être louper des opportunités, c'est quelque chose d'assez dur à appréhender. Mais je pense qu'au final, il faut tenter parce que bah moi, là, cette année, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à travailler. Et j'en parlais avec Alexis Minkela. On parlait d'une conférence de Simon Sinek, je crois, sur The Infinite Game. Et ouais, en fait, le fait de bosser, enfin, de développer sa boîte, etc., c'est un jeu sur le très long terme. Donc, si tu te crames en une ou deux années, tu vas pas bien finir. Donc, c'est très important de prendre soin de soi, de sa santé mentale, de sa famille, de se poser pour savoir c'est quoi tes objectifs, mais pas pro, mais aussi perso. C'est qu'est-ce que je veux faire de ma
vie, quoi.
C'est ça. Quand t'es freelance, en fait, je crois que c'est toi qui disais ça, c'est quand t'es freelance, tu peux pas dissocier la personne pro et la personne dans la vraie vie. Mais ça c'est totalement vrai. En fait, moi, ce que je fais pour le travail, c'est basé sur des objectifs que j'ai en perso. Donc, ouais, tout est lié. Il faut vraiment avoir ces périodes d'introspection.
C'est clair. D'autant plus que, comme tu l'as très bien dit, on a tous un temps qui est limité par nature. On peut pas l'étendre. On peut pas se rajouter du temps sur le chrono.
Et c'est ça.
Comme on a ce temps limité, il faut absolument se poser la question de où est-ce que je l'investis. Et quand on investit sur des choses, on peut choisir de l'investir que dans le travail, c'est un choix qu'on peut faire, mais à mon sens, il faut le faire en conscience, quoi. Et du coup, si on n'investit pas tout dans le travail, on va louper des opportunités. Mais comme on louperait des opportunités dans notre vie de famille, comme on louperait des opportunités dans notre vie avec nos amis, ce genre de choses.
C'est ça. Ouais, ça dépend, ouais, de ce que tu veux faire dans la vie, tu vois. Si tu veux être une rockstar du freelance et, être un méga influenceur et d'avoir, tu vois, je compare ça un peu avec le sport, tu vois. T'as Cristiano Ronaldo dans le football qui passe sa vie, il mange foot, il boit foot, il pense foot, il fait tout pour le foot. Et du coup, ça marche parce que tout est axé pour réussir. Mais en détriment de peut-être d'autres choses, par exemple la famille, etc. Mais après, c'est son choix. Si t'es OK avec ça, fonce. Tu vois, c'est pour ça, je pense, ouais, faut arrêter aussi de culpabiliser en disant, ouais, je travaille trop, etc. Ou genre, oh, je travaille la nuit. Je dis des conneries, mais en fait, si t'es à l'aise avec ça, fais-le.
grave. Et en plus, c'est par période, tu vois. Genre, c'est jamais final. Ça se trouve, c'est une période de ta vie où c'est ta priorité et c'est OK, et c'est cool. Genre, savoure c'est que ça. Ce soit ta priorité et assume, et après, ça peut changer et on peut évoluer. Et je pense que c'est ça aussi la vraie quête, c'est trouver cet équilibre personnel de actuellement, ma priorité, c'est tel domaine de vie et je vais investir mes ressources et mon temps là-dedans. Et à un autre moment, ça changera. Et du coup, c'est trouver cet équilibre-là et accepter qu'on n'avance pas tous au même rythme parce qu'on ne met pas tous nos ressources au même endroit.
C'est ça. Par exemple, moi, cette année, le but, c'était... Je voulais... En fait, ce qui me manquait avant, en 2019, c'était un portfolio client avec des beaux projets pour attirer d'autres beaux projets. Parce que le truc, c'est que j'essaie de vendre des expériences digitales uniques. Et donc... le fait d'avoir des beaux projets va m'attirer d'autres beaux projets comme ça. Et donc, moi, je m'étais dit, OK, 2020, il faut que je sprinte, il faut que je fasse plein de projets cool. Comme ça, après, je pourrais me poser et sélectionner plus, prendre le temps, sélectionner les beaux projets, mais avoir plus de temps, plus de budget, etc. Donc, je pense que, ouais, je me suis un peu cramé, en toute honnêteté, cette année. Mais ça a payé parce que, du coup, je suis content de là où j'en suis pour l'instant avec le studio, même si c'est que les débuts, mais je suis content de ce que j'ai fait, et puis je suis content aussi d'avoir lancé la chaîne, et je me dis, il y a tellement de belles opportunités avec la chaîne et de sujets à aborder, etc., que je suis bien content d'avoir bossé la nuit à faire le montage de la vidéo, à enregistrer, etc., et je me dis que ça vaut la peine.
Mais j'ai l'impression que maintenant, tu as des armes pour effectivement faire ce que tu dis vouloir faire, de être vraiment dans la stratégie d'écrémage, de filtrage. Tu vois, je pense à tes projets qui ont été récompensés sur Awards, qui est un peu la destination rêvée de tout web designer, j'ai l'impression.
C'est ça.
Et pareil, CSS Design Awards, etc. Ouais. Du coup, ça, c'est des armes de folie maintenant. Genre, ouais, voilà, regardez, ce projet-là, ils ont été récompensés sur Awards. Voilà ce que t'achètes quand tu bosses avec moi.
Bah ouais, bah, ça t'apporte une crédibilité et ça t'évite beaucoup de charges mentales à devoir convaincre des clients, etc. Là, t'inverses un peu la tendance où c'est plus les clients qui viennent vers toi. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant. Et et je trouve qu'en fait, je pense que t'as un peu pareil avec le podcast et tout ce que tu fais, c'est que le fait d'avoir des side projects, bah il y a aussi ça te ramène aussi il y a un côté marketing dedans, c'est du coup ça te ramène pas mal de gens pour le studio, pour ton activité de freelance, etc. Donc ça, en fait, c'est mieux que de passer du temps à aller démarcher par exemple sur LinkedIn ou d'envoyer des cold emails ou je ne sais quoi. C'est en fait le but, ouais, si t'arrives à inverser la tendance en créant quelque chose qui apporte aux gens, par exemple, tu vois, un podcast, c'est gratuit, une vidéo YouTube, c'est gratuit, t'apportes gratuitement de la valeur aux gens. Et en fait, tu vois, c'est un peu le principe du karma, c'est si tu donnes, les gens te donneront. Et en fait, ça marche trop, c'est incroyable. Je pensais pas que ça marchait aussi bien, tu vois, par exemple, tu fais des vidéos sur YouTube, en fait, les gens, déjà te remercient. Et en fait, ils en parlent autour d'eux. Et par exemple, s'ils entendent parler d'un client qui a besoin d'un mec qui fait du design ou du dev, peut-être en fait, il va penser à moi parce que du coup, j'ai fait des vidéos, et j'ai partagé mon savoir, mon petit savoir. Hein, je dis pas que, mais ouais, il y a un côté karma.
Ouais.
Ouais.
Ouais, c'est un gros côté karma. Mais je crois que ça s'appelle le principe de réciprocité, dans le sens où si quelqu'un t'a donné, tu vas essayer de lui rendre d'une manière ou d'une autre. C'est un biais psychologique. Ce qui fait que, ça se trouve, tu vas le recommander à quelqu'un ou tu vas faire quelque chose d'autre. Et c'est assez fou à quel point, effectivement, moi, c'est presque devenu un de mes mantras. C'est plus tu donnes, plus t'es riche. Et la richesse, pas au sens financier, mais la richesse de tout ce qu'on peut recevoir dans notre vie. Et j'ai l'impression que c'est vrai partout, tu vois. Genre, je me disais, par exemple, Si t'as un potager, plus tu vas donner d'attention et d'amour et tout à tes légumes, plus tu vas recevoir d'abondance et de richesse dans ta récolte, dans ton potager. Pareil sur plus tu donnes à tes amis, dans ta vie de couple, plus tu vas recevoir d'amour en retour et ainsi de suite. Et j'ai vraiment l'impression que c'est vrai partout.
Exactement.
Et aussi dans le business, du coup.
Exactement. Et ouais, en fait, c'est le fait de donner comme ça. Déjà, ça te fait te sentir bien, mais aussi ça donne un côté cool au marketing, j'ai envie de dire. Enfin, moi, c'est le fait d'aller démarcher des clients, etc. C'est quelque chose que j'aime pas du tout, sur lequel je suis pas vraiment à l'aise. Et en fait, le fait d'avoir inversé ça et du coup que c'est plus les gens qui viennent me voir, ça me fait aussi beaucoup de bien.
Ouais, c'est clair. Mais tu peux arriver du coup à cette phase de je filtre.
Mais ouais, si j'avais un conseil à donner aux gens qui, comme moi, j'ai passé beaucoup d'années à ne rien partager, à la jouer solo. C'est genre, je partage pas mes clients, je partage pas mon savoir, c'est mon truc. En pensant que je suis un peu que je suis bon, donc je partage pas mes trucs, je partage pas mon savoir, parce que sinon les gens vont me voler mes contrats, ou alors, tu vois. Et en fait, ça, c'est totalement faux. Plus tu donnes, même ça te permet de rencontrer pas mal de gens. Et moi, du coup, cette année, le fait d'avoir la chaîne, d'aller plus parler aux gens, j'ai rencontré aussi les potes de Sapiens Sapiens, du coup, qui est, d'autres potes Webflow, on s'est créé un Slack channel, on fait des petites vidéos sur YouTube tous les mercredis où on échange sur le freelancing, sur Webflow, etc. Et en fait, c'est trop bien le fait d'avoir des potes de travail sur lesquels tu peux t'appuyer si t'as des doutes, mais que ça soit même pas que technique, si t'as des doutes dans ta vie de freelance, etc. Partage, donne, et tu verras ça.
C'est clair.
Ça vaut le coup.
C'est clair, ça a une force de fou, la communauté. Et de s'entourer de ces personnes. Bah, tu sais que c'est un truc qui me parle. J'en ai beaucoup parlé récemment, donc je vais pas en remettre une couche. Mais ouais, clairement, ça a une valeur de fou, la communauté. On va arriver tranquillement sur les questions rituelles de fin, Alex. La première étant... Ouais, ça fait un moment déjà qu'on discute, mais j'ai envie de laisser du temps disponible pour ces questions de fin, parce qu'il y a souvent intéressantes qui sortent. La première, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée dans ta vie de freelance et comment tu l'as surmontée?
La plus grosse difficulté, bah, je pense, ouais, je l'ai déjà abordé, c'est le fait de trouver des clients. Je pense que j'ai vraiment passé beaucoup de temps à ne pas trouver de clients parce que je savais pas du tout comment faire. J'avais pas du tout les clés et j'avais pas non plus les projets et les arguments pour attirer des clients. Donc, ouais, j'ai vraiment galéré là-dessus. Et mais, bah, là, pareil, ouais, le fait de parler, de prendre la parole. Et un truc que j'ai fait, que je conseillerais aux personnes quand tu débutes et que tu n'as peut-être pas toutes les clés en main, c'est de faire des projets perso. Mais quelque chose de perso que tu travailles vraiment pour le montrer. En fait, par exemple, si tu veux bosser avec une marque de bijoux, par exemple, eh ben, fais un site super quali, etc. Mais par toi-même, tu n'as pas besoin de trouver un client. À faire un site sur un e-commerce sur les bijoux, enfin un e-commerce ça fait beaucoup de travail, mais tu vois, un projet sur le thème du luxe, de la bijouterie, etc. Et du coup ça va te permettre d'ouvrir une porte dans la niche que tu souhaites, en fait. Et ouais, truc important, moi je suis un fervent de trouver sa niche, parce qu'avant, ouais, je voulais parler à tout le monde, mais en fait je parlais à personne. Et le fait de me spécialiser, de vouloir tel type de client, ça m'a permis aussi de savoir où je veux aller et aussi de me connecter avec les personnes de ce milieu-là. Et donc, ouais, c'est de trouver... donc, ouais, je dirais prendre la parole et de trouver sa niche.
Trop cool. Et un truc que je trouve intéressant de ce que tu dis là, d'en prendre la parole et faire des side projects où tu fais des projets perso, c'est de se dire, si je fais des projets perso, comme toi, par exemple, tu pourrais, avec cet exemple de la bijouterie, tu pourrais dire, OK, ben voilà, j'ai envie de trouver des nouveaux clients, peut-être dans ce segment du luxe, je vais faire un site comme ça. Mais ouais, plutôt que juste faire le site et de montrer les résultats finaux, toi, ce que tu aurais fait, j'imagine, avec la chaîne YouTube, c'est que tu documentes tout et tu montres absolument tout ce que tu as fait pour travailler. Et du coup, ça devient ta prise de parole, tout en faisant le projet perso en même temps. Et du coup, tu fais genre presque deux pierres d'un coup et ça te fait ton contenu et tu montres la manière dont tu t'y prends et ainsi de suite. Et ça, je trouve qu'effectivement, ça a plein de vertus comme toutes celles dont on parlait de l'éducation du client et ainsi de suite, quoi.
Bah ouais, en fait, c'est aussi de l'optimisation du temps. Tu bosses sur un projet gratos, qui du coup est un side project. Ouais, documente-le comme ça, en plus d'avoir un super projet à montrer. Et ben aussi, ça te fait du contenu pendant... Enfin, moi, par exemple, avec la chaîne, ça me fait des épisodes à poster pendant 3 mois sur le sujet. Donc, ça veut dire que pendant 3 mois, enfin même 4 mois, je vais poster 2 vidéos par semaine sur tel sujet. Donc, en fait, ça permet aussi de prendre la parole et de te faire connaître petit à petit, parce que c'est vrai que ça prend du temps aussi.
Ouais, c'est clair. Du coup, ce que je dirais à quelqu'un qui nous écoute, c'est pour les clients que tu as envie de servir... Choisis les clients avec qui tu aimerais travailler, crée un projet perso qui va leur parler et documente tout. Pas forcément que en vidéo, du coup, ça peut être en audio, tu expliques ce que tu fais, ça peut être une série de posts où tu expliques étape après étape, ça peut être des articles de blog où tu écris tout, mais documente toute la manière que tu fais, toute ta manière de travailler sur ce projet perso et montre-le, quoi.
Carrément. Ouais, c'est pas obligé d'être une vidéo YouTube. Ça peut être une newsletter. Tu publies une newsletter toutes les semaines sur un sujet. C'est vrai, en fait, c'est si t'as une niche, si t'as une cible de clients, il faut que tu leur parles, il faut que tu comprennes c'est quoi leur problème. Et donc, du coup, en comprenant leurs problèmes et en les résolvant, eh ben, en fait, tu vas leur attirer leur attention. Donc, ça, c'est super important.
Grave. Merci pour cette réponse, du coup. La question d'après, c'est si tu étais face à Alex à son tout premier jour de freelancing, Et avec toute ton expérience depuis, c'est quoi le conseil que tu lui donnes?
N'aie pas peur, bouge-toi le cul.
Franchement, ça veut dire quoi, bouge-toi le cul pour toi?
Non, franchement, j'ai passé 3-4 ans un peu, enfin ouais, de genre de 20. En fait, quand j'ai quitté les Beaux-Arts, enfin ouais, non, quand j'ai quitté, ouais, quitté les Beaux-Arts, enfin, j'ai passé ouais, 4-5 ans à galérer, quoi. Et par peur de tenter des choses, par peur de prendre la parole, par, tu vois, par exemple, la vidéo de la chaîne YouTube, c'est un exemple parfait. Ça fait genre, en vrai, ça fait quasiment 3 ans que je pense à ça, faire une chaîne YouTube sur partager des choses dans le design, dans le enfin, pas le développement à l'époque, mais, et je me bloquais en me disant, non, je vais pas le faire, j'ai pas envie que les gens me critiquent ou pensent, enfin, se foutent de ma gueule, etc. Et en fait, tu te dis, qu'est-ce qui va t'arriver? Même si les gens aiment pas, tu t'en fous, en fait. Ça va rien changer à ta vie. T'as toujours ta famille qui est là. Ton travail, ben, ça marchera toujours. Hein. Ça changera rien du tout, en fait. T'as de compte à rendre à personne. Donc, tente. Tente avant qu'il soit trop tard et que tu regrettes de pas avoir fait ça et que tu vives dans les regrets toute ta vie.
Du coup, pour les gens qui nous écoutent, ce projet auquel vous pensez depuis des mois et des années, c'est maintenant.
Fais-le.
Arrêtez de justifier. J'adore ce genre de moment.
C'est
trop cool.
Non, ouais.
Et la dernière question. Ouais, vas-y. Partagez, grave. Partagez. Pardon, ouais. J'avais envie d'arriver à la dernière question parce que tu sais que c'est ma préférée. La dernière question, c'est si justement toi, il y avait une seule question que tu voulais poser aux gens qui nous écoutent cette semaine pour qu'ils prennent un vrai temps pour l'introspection dont tu parlais tout à l'heure, pour réfléchir à leur vie d'indépendant, leur business indépendant, c'est quoi la question?
Eh ben, en fait, ça serait une question pas liée à la vie pro. Ça serait, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est quoi les objectifs dans ta vie perso? Parce qu'en fait, suivant tes objectifs de vie perso, toute ta vie pro va s'articuler autour de ça. On a la chance, en tant que freelance, de pouvoir modeler notre façon de travailler, de choisir les clients, de choisir le pricing, etc. Donc, en fait, ouais, pose-toi les questions de qu'est-ce que je veux faire dans ma vie perso, de combien j'ai besoin, enfin, tout un tas de questions qui vont te permettre de poser et d'avoir des clés dans ta vie pro, qui vont te permettre de déterminer un prix, un temps de travail, etc. Donc, ouais, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie?
Et si tu partageais pas, tout à l'heure que toi, c'était, ouais. Ouais, c'est clair. Au moins, il faut se poser la question à répétition pour savoir. Ouais. Mais j'allais dire, toi, du coup, c'est ce que tu partageais tout à l'heure, c'est vraiment ta réflexion de te dire, en fait, je définis mes objectifs pro par rapport à ce que je vis dans ma vie perso. Et est-ce que c'est ça, du coup, qui a donné naissance à ce que tu disais de je veux pouvoir monter en qualité, pouvoir faire stratégie de filtrage de mes clients et vraiment seulement choisir ceux qui pourront s'offrir la crème de la crème avec moi?
Ouais, c'est ça, parce que je suis papa depuis 7 mois, donc je continue à beaucoup travailler et j'aimerais avoir un peu plus, même si du coup je bosse pas le matin, j'ai fait le choix de pas bosser le matin, et donc du coup je bosse l'après-midi, donc par exemple de 14h à 19h, et donc si tu fais le compte, ça fait si tu bosses 5 jours par semaine, ça fait 5 fois 5, ça fait 25 heures, et je trouve pour moi, c'est pas assez pour développer toutes les choses que je voudrais développer. Donc le soir, quand ma copine et ma fille vont se coucher, parce que du coup ma copine allait, donc elle est beaucoup plus fatiguée que moi, force à elle. Et donc moi, en fait, je bosse de 22h30 à minuit. Je me rajoute un petit extra comme ça. Mais moi, ça me dérange pas parce que mon objectif de vie, c'est de passer du temps avec ma famille, enfin avec ma fille, ma copine. Et en fait, je passe toute la matinée à prendre du temps avec elle et aussi la soirée, début de soirée. Donc du coup, le fait d'avoir cet objectif de vie m'a permis aussi de, dans la vie pro, de déjà timer, de dire ok, je travaille de tel temps à tel temps. Mais du coup, ça veut dire ok, ton temps est pas infini, donc il va falloir que tu sélectionnes tes clients. Mais vu que ton temps n'est pas infini, il faut que tu sélectionnes les clients qui te payent bien. Parce que si tu prends les clients qui te payent pas bien, eh ben du coup, tu vas te retrouver à la fin du mois à donner du riz à ta petite, quoi.
Ouais. Ouais, c'est clair. Et ne pas passer le temps que tu as envie de passer avec elle.
C'est ça. Donc, le fait d'être papa, ouais, ça m'a. En fait, quand j'ai appris que j'allais être papa, c'est là où je me suis. Ça m'a créé un gros OK. Là, faut plus que j'ai peur de rien. Faut que je défonce tout. Parce que là, c'est pas comme quand t'es tout seul en freelance où, du coup, t'as un peu de marge de manœuvre. Tu vois, si un mois où tu galères, si t'as moins d'argent, bon, OK, tu peux être un peu plus flexible ou tu peux rentrer chez tes parents, etc. Mais quand t'as une vie de famille, c'est beaucoup plus galère. T'as un peu plus d'engagement. Et en fait, ça m'a permis de me poser directement les bonnes questions, d'arrêter de tenter des choses, d'arrêter de... OK, c'est quoi les objectifs? Et du coup, qu'est-ce que tu dois faire pour arriver à ces objectifs-là? Donc,
Et bouge-toi le cul, comme tu disais à Alex le premier jour.
C'est ça, ouais. Ça reste du travail, en fait. C'est, ouais. Tu vas pas mourir. Après, il y a ta vie perso... à côté qui enfin rien n'est comment dire ouais enfin ça va pas te faire mourir. Et moi j'ai un truc, c'est si t'as fait pas mourir, au final fais-le, enfin tente un truc, parce que sinon après le plus horrible, je trouve, c'est de vivre un peu dans les regrets, de dire ah, j'aurais dû faire ça, il y a 2 ans j'aurais dû faire ça. Et au final, si tu l'as pas fait, après tu peux toujours le faire, mais Si tu l'as pas fait au moment où tu voulais le faire, ça peut t'engendrer un peu de regret. Donc ouais, fais-le, ça coûte rien.
Je trouve que c'est un mot parfait pour clôturer. Fais-le, au pire ça te coûte rien. Et je vous invite tous à oser.
C'est ça.
Trop bien. Merci Alex. Où est-ce que j'envoie les gens qui veulent discuter avec toi, voir ton travail, la chaîne YouTube j'imagine en premier?
Yes, et ben du coup il y a la chaîne YouTube, donc Alex Tourgis sur YouTube, je pense que vous trouvez assez facilement. Sinon sur Twitter, Alex Tourgis, LinkedIn, Alex Tourgis. Sur Instagram, c'est tambien.studio. Je sais pas si je dois mettre Alex. En fait, j'ai mon Instagram perso, donc mais du coup sur Instagram, c'est tambien.studio. Et allez faire un petit tour sur le site aussi, www.tambien.studio.
Je mettrai tous les liens. Je mettrai tous les liens sur la page du site où le podcast sera hébergé. Merci beaucoup pour ton temps. J'ai kiffé cette discussion et je t'invite effectivement à aller voir la bonne série A to Z sur un site Webflow sur YouTube.
Merci beaucoup à toi, Thomas. En tant que groupie, ça m'a fait bizarre d'être ici.
Ouais, c'était un plaisir de t'accueillir. À bientôt, Alex.
Merci beaucoup. Ciao.
Pour clore cette belle discussion, j'avais envie de te partager les choses que je retiens personnellement de cet échange pour que toi aussi tu puisses travailler et asseoir ta légitimité sur ce que tu proposes à tes clients, même si, comme Alex, ça couvre plusieurs métiers ou plusieurs piliers. La première chose que je retiens, c'est l'importance de l'éducation client. C'est un sujet qu'on avait déjà traité ensemble ici dans l'épisode 14 avec Laetitia Bouloc, que je t'invite à écouter d'ailleurs. Mais voici ce que je retiens des pratiques d'Alex sur le sujet. La première chose, c'est que je t'invite à choisir un format de contenu sur lequel tu vas documenter et montrer ta méthodologie de travail de A à Z. Ça peut être une vidéo, de l'écrit, peu importe. Mais l'idée, c'est que ce format te permette de montrer clairement à tes clients, de les éduquer clairement sur ton approche personnelle, de ton métier, et sans avoir à le répéter à chaque rendez-vous avec un nouveau prospect. Ça te donne un format où les gens qui regardent ça vont comprendre ton monde, ton approche et ta valeur ajoutée. Et ça, c'est vraiment important. La seconde chose que je retiens, c'est l'importance de la pratique délibérée pour développer ses compétences et sa confiance. Quand Alex a voulu rajouter son 4e pilier, le développement, à son offre, il a passé une année entière à pratiquer au maximum l'utilisation de Webflow, qui est l'outil qu'il a choisi pour se spécialiser. 1 an de pratique. Et du coup, l'invitation que je nous offre à nous tous, et à toi aussi, c'est de te dire de trouver des moyens de pratiquer au maximum les expertises et les piliers que tu souhaites rajouter à ton offre. Ça peut être par des projets fictifs, ça peut être par des projets gratuits que tu fais pour des clients avec qui tu as vraiment envie de travailler, pour te tester et en profiter justement pour créer le contenu dont on parlait juste avant. Et du coup, c'est ça, ça d'ailleurs, c'est ce que Alex continue de faire parfois, faire des projets gratuits pour créer du contenu sur sa chaîne YouTube. Mais ça peut être aussi tout simplement de tester des choses en privé, faire des projets privés que tu gardes sur ton ordinateur. Et d'ailleurs, à ce propos, le coach Tony Robbins dit « On est récompensé en public pour ce qu'on pratique en privé pendant des années. » Et à ce propos, et c'est un autre point, le dernier point que je nous invite à retenir, je nous invite tous à faire preuve de patience et à jouer à des jeux de long terme. Parce que on ne construit rien de grand ni de valeur du jour au lendemain. Les plus grandes avancées se font dans le temps, en étant présent jour après jour à nos projets, à nos rêves, à nos aspirations, et en mettant chaque jour un pied devant l'autre. Alex se trouve où il est aujourd'hui, après 10 années dans son domaine du design, à apprendre, expérimenter, tester, échouer, se questionner, mais toujours en allant de l'avant, et en se demandant où est la suite. Je t'invite toi aussi à y réfléchir cette semaine, et tous les deux on se retrouve très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.